Bonjour, nous sommes sur Allegre FM 93.1 dans La vie est un roman. Et aujourd'hui, nous sommes mardi à 11h et nous allons parler d'un livre sur Jean-Patrick Manchette. Jean-Patrick Manchette, Écrire contre, publié aux éditions Gallimard, un livre qui fait un peu plus de 700 pages et écrit par Nicolas Leflaec, qui est avec nous dans le studio. Et donc le livre est chapitré en quatre grandes parties qui sont des contres. Alors il y a une partie contre le roman noir, ça c'est la première partie. Donc nous allons entrer en matière avec le point de vue de Manchette et les pratiques de Manchette par rapport au roman noir. À vous Nicolas.
Bonjour, merci de me recevoir pour parler de mon livre et puis surtout de Manchette. Oui, donc c'est un gros livre, 700 pages. C'est un gros livre parce que j'ai passé beaucoup de temps à l'écrire. Ça représente à peu près 10 ans. 10 ans de voyage dans l'œuvre de Manchette. Alors, il faut expliquer peut-être peut-être rappeler aussi pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Manchette, qui c'est. Donc, c'est un auteur qui est né en 1942. Dans un entretien, il dit qu'il naît un hiver de guerre. Donc c'est une date importante. Il va grandir dans la France de l'après-guerre, une France qui se reconstruit aussi en étant très influencée par la culture américaine, le cinéma américain. Enfin, il s'intéresse beaucoup au cinéma. Et d'ailleurs, il va tenter de vivre de sa passion pour le cinéma. C'est son but initial, travailler pour le cinéma, écrire pour le cinéma. Ça ne fonctionne pas. Donc il se dit finalement que le bon plan, ce serait peut-être de faire un petit peu le principe du cheval de Troie, c'est-à-dire de rentrer par effraction dans le cinéma en écrivant des romans noirs qui seront adaptés au cinéma, et comme ça, il gagnera sur tous les tableaux, et c'est exactement ce qui va se passer, enfin à peu près. Donc au début des années 70, il va signer deux romans à la série noire, un avec Jean-Pierre Bastide, Laissez bronzer les cadavres, et un autre tout seul, l'affaire Engoustreau. Et pendant 10 ans à peu près, il va écrire une dizaine de romans à la série noire qui vont vraiment profondément renouveler la collection, marquer les esprits, et qui vont être adaptés d'ailleurs au cinéma à plusieurs reprises par des réalisateurs très différents, de Claude Chabrol à Alain Delon, donc ou Jacques Brel, il y a vraiment de tout. Et en fait, il va découvrir qu'il est très heureux d'écrire. Donc, il ne va plus écrire des romans noirs pour faire du cinéma. Il va faire du cinéma pour avoir de l'argent et du temps pour écrire des romans noirs. Donc, mon livre parle effectivement beaucoup de cette période-là. Mais s'il est épais, c'est aussi parce que je me suis intéressé à tout ce qui entoure les romans noirs. Donc, c'est-à-dire en amont des romans noirs, tous les travaux alimentaires que Manchette a réalisés pour pouvoir vivre de sa plume, parce que ses parents lui avaient coupé les vivres, donc il fallait qu'il vive avec femme et enfant, comme un travailleur du verbe, en fait. Donc il y a des écrits, des romans pour la jeunesse, Tête brûlée contre zombies. Il y a des novélisations comme Sacco e Vanzetti, Mourir d'aimer. Il y a aussi un roman pornographique écrit sous pseudonyme de Zeus de Castro. Donc ça, c'est avant les romans noirs. Pendant les romans noirs, il y a aussi des traductions, du scénario, tout un tas d'écrits pour le cinéma, des chroniques aussi qui sont très importantes, on y reviendra peut-être. Et après donc les romans noirs, donc Manchette, au début des années 80, publie La position tireur couché. C'est le dernier roman noir qu'il publiera de son vivant. Or, c'est pas le dernier livre qu'il a publié, puisqu'il y a eu toute une série de publications posthumes, La princesse du sang, son roman inachevé, vraiment magnifique, et toutes les chroniques chez Rivage littéraire, Les yeux de la momie pour le cinéma, le journal, et puis après la correspondance, les entretiens sur lesquels j'ai travaillé. Donc c'est aussi un livre qui essaye d'embrasser en fait quasi-totalité des écrits de Manchette. Donc,
est-ce qu'on pourrait dire d'emblée que la particularité de Manchette, c'est d'avoir travaillé sur un héritage chandlérien et sur le béhavourisme, en fait, et le comportementalisme, et que le fil qui est à l'intérieur de votre livre, c'est défaire cette approche un peu rapide pour montrer qu'à l'intérieur de ce style comportementaliste, il y a plein d'autres choses et qu'on voit des symptômes. En fait, votre livre est une puissante analyse à travers un certain nombre de symptômes. Et puis aussi beaucoup de négation. Il y a une volonté d'être dialectique et de toujours dire non aux affirmations. Donc ce style, en se faisant, se nie. Il y a des choses très fortes.
Oui, il y a des tensions.
Comme quand il dit « je ne sais pas ce qui se passe » et des choses comme ça, c'est extrêmement
fort.
C'est juste pour situer l'ensemble de la démarche critique.
Oui, c'est pour ça.
Il y a une démarche critique, en fait. Ce n'est pas un simple compte-rendu.
C'est ça, j'espère. En tout cas, donc, c'est pour ça le titre aussi « Écrire contre », c'est-à-dire que Manchette écrit contre en deux sens. D'abord parce qu'il s'adosse, comme on se tiendrait contre un arbre. Donc il s'adosse à toute une tradition, vous avez raison, les pères fondateurs du roman noir, Dashiell Hammett, Chandler et d'autres. Et en même temps, il s'oppose, il remet en question, il a une approche assez dissonante de son rapport à la tradition, même s'il dit que son écriture est référentielle. Donc c'est jamais neutre, effectivement, pour ce qui est du behaviorisme, comme vous dites, effectivement. Donc ça, c'est la question de l'émotion. Longtemps, on a dit que Manchette refusait l'émotion, qu'il avait une écriture froide. Et en même temps, par exemple, dans une lettre à Signac, il dit qu'il écrit avec émotion, qu'il la cache derrière un style cool à la mode, mais que c'est son carburant quand il écrit. Donc moi, ça m'a intéressé, parce qu'il y a du behaviorisme chez Manchette. Donc le behaviorisme, c'est quand on s'intéresse au comportement des personnages sans décrire leur psyché, leur...
On refuse d'utiliser des termes psychologiques
pour
décrire ce qui se passe.
C'est ça, tout passe par le comportement.
On ne décrit que ce qu'on voit.
Voilà, c'est ça. On dit ce qu'ils font, on dit ce qu'ils disent, mais on s'arrête là. Et en même temps, je me suis rendu compte que c'était une approche puissante de l'émotion, parce que finalement, l'émotion trouvait des chemins détournés pour exister. Donc ça peut passer par le corps, évidemment, au premier chef. Ça peut passer par la voix du narrateur, par les paysages. Donc l'émotion trouve refuge dans pas mal d'endroits.
Vous alignez un certain nombre de citations, c'est sur les lèvres.
Oui, alors par exemple, voilà, j'ai fait des relevés, par exemple. Donc il y en a quelques-uns. Je les ai allégés, donc c'est même pas exhaustif, parce que c'est un livre qui s'appuie sur ma thèse, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de relevés. Et encore, j'en ai enlevé, parce que dans la thèse, il y en avait plus. C'était encore un peu plus long. Mais oui, c'est mon plaisir, c'est d'être allé fouiller dans les romans et puis montrer, par exemple, comment d'un roman à l'autre, on trouve des échos. Là, vous parliez de Chandler tout à l'heure. Dans un entretien, Manchette dit qu'il y a un clin d'œil. Il y a beaucoup de clins d'œil dans les romans de Manchette. Il y a un clin d'œil à Chandler, une phrase sur le visage contracté qu'il a emprunté au Grand Sommet, je crois, et qui se retrouve dans une bonne partie de ses romans. Donc je suis allé relire les romans rien que pour ça, et effectivement, donc je fais un petit topo sur ce motif-là qui revient dans toute son œuvre. Donc
si on reprend ce chapitrage-là, en quoi est-ce que Manchette travaille contre le roman noir ?
Alors il travaille contre le roman noir pour plein de raisons. D'abord, évidemment, il s'y adosse, c'est-à-dire qu'il trouve... Il découvre la forme qui convient à son écriture. Avant il voulait écrire. On sait qu'il a fait des tentatives qui n'ont pas abouti. Et je crois qu'avec le roman noir, il va trouver une forme à sa mesure. Avec la série noire, il va trouver un rapport à la littérature qui lui convient. Donc en ce sens-là, il va s'adosser à la série noire, parce que la série noire, ça reste encore, même si ça a déjà changé au début des années 70, ça reste encore une collection populaire quand même. Manchette le dit, il écrit pour les pauvres, qu'il écrit contre tout le monde, mais il écrit pour tout le monde aussi. Donc il y a cette dimension accessible. Et par exemple, quand Fatal sera refusé par la série noire et publié hors collection par Gallimard, pour lui, c'est pas du tout une consécration. Il est même assez agacé de voir que le livre coûte 5 fois plus cher que ses précédents. Donc il se trouve bien dans cette forme littéraire aussi parce qu'elle est culturellement dénigrée, déclassée. Lui, il ne recherche pas du tout un anoblissement du roman noir, une panthéonisation. Il se méfie comme la peste de toute forme de récupération culturelle, donc ça lui va très bien. Donc en ce sens-là, il est vraiment contre et tout contre même le roman noir. Il embrasse cette forme-là. Et en même temps, il la travaille de l'intérieur, il la fait évoluer. Il se situe aussi contre une tradition de la série noire qui est celle du roman noir français. Par exemple, les auteurs comme, je sais pas, Simonin, Le Breton, c'est pas des auteurs qui l'intéressent lui. Alors, il leur rend hommage aussi, hein, mais c'est pas son héritage à lui. Dans le même temps aussi, il commence à repérer, et il a raison, il s'est pas trompé, que le roman noir va être récupéré par le marché, par toute une institutionnalisation culturelle, c'est-à-dire qu'il va y avoir des salons du polar qui, par exemple, qui commencent à exister dans les années 80, qui va fréquenter lui-même pour certains. Donc, de ce point de vue-là aussi, il se méfie du roman noir tel qu'il commence à exister dans les années 70 et 80, parce qu'il est récupéré par un marché dont il se méfie.
Vous me faites envie sur la future biographie que je voudrais que vous écriviez. Parce que, par exemple, avec les salons, il est ambigu. C'est un bel exemple d'ambiguïté. C'est, en même temps, c'est très gratifiant. Par exemple, dans le rapport humain. Surtout, il est jamais blanc. Et il voudrait être blanc-noir, mais il n'est pas. C'est justement le sens même de votre livre.
Oui,
de montrer
sûr.
Que quand c'est exprimé, quand il y a des déclarations d'intention sur un blanc-noir, ça ne fonctionne jamais, tout est gris.
Oui, mais je suis sensible aussi à ces tensions. D'ailleurs, il dit lui-même, hein, je suis un individu plein de contradictions. Donc, moi, je suis sensible à ça. Et en même temps, vous voyez, bon. Il y a des contradictions, il y a quand même une cohérence. Il maintient une ligne, par exemple, sur les salons. Effectivement, il est critique, évidemment, pas envers ceux qui organisent des salons et ceux qui s'y rendent, mais envers ce que ça représente vis-à-vis de la place du polar dans la société. Ouais, mais ça ne l'empêche pas d'y aller. Par exemple, quand il va en Espagne dans les années 80 à Riron, la Semaine Noire, il raconte dans sa correspondance qu'il est plutôt content d'y aller dans un premier temps, de nouer des contacts. Et puis d'ailleurs, il va rencontrer un ou deux auteurs de romans.
Puis il y a la guerre d'Espagne. Pour cette génération, le fait d'aller en Espagne est déjà quelque chose en soi.
Oui, peut-être. Mais alors, il va déplorer en allant là-bas un décalage entre, par exemple, des manifestations qui se passent tout autour de ce salon du polar et des auteurs de polar qui ont l'air d'être, pour la plupart... qui méconnaissent complètement la situation politique qui est celle de l'Espagne. Donc, il constate ce décalage-là. Je crois qu'il dit que les manifestants demandent moins de spectacles et plus de travail. Alors, il dit on ne peut pas être tout à fait d'accord avec ça, pour le travail, je pense, parce que c'est comme Debord, Manchette, Enfin, ne travaillez jamais, quoi. C'est quand même
ouais, son... Mais il travaille tout le temps.
Mais il travaille tout le temps.
Si quelqu'un
évidemment.
Qui travaille, c'est bien lui. Hein.
Évidemment, il a œuvré toute sa vie, ça c'est sûr. Mais le travail salarié, la soumission au travail et à l'économie, ça c'est quelque chose qui critique. Donc,
mais justement, là, ça serait l'occasion de faire une critique de l'idéologie de cette génération. Parce que leur discours est quand même en porte-à-faux très souvent.
Ouais, mais bon, de ce point de vue-là, en tout cas, lui, dans le rapport au salon, par exemple, on peut pas dire, il y va, alors il en refuse aussi, si on lit la correspondance, on voit ça peut lui arriver d'en refuser pour toute une série de raisons, mais il y a quand même, et ça aussi, c'est, me suis attaché à rappeler ça, qu'on remarque si on lit Manchette, en fait... c'est qu'il y a, il y a quand même une générosité dans les échanges humains qui existent chez lui. On le voit dans les chroniques, par exemple. Alors, bon, il peut lui arriver d'être cassant dans ses critiques et il a un ethos un peu dissonant. Mais en même temps, il est parfois très élogieux avec des auteurs comme Richard Morgiev, Prudhon même... Là, il écrit une lettre qui servira de promotion pour le roman de Jean Echenoz. Donc, il y a quand même dans l'échange une attention à l'autre qui est réelle, qu'on sent dans la correspondance aussi, qui fait
et
voir
alors,
un autre
moi,
Manchette.
Moi, qui étais pigiste toute ma vie, je veux dire que les journaux dans lesquels il travaille à l'époque où il y travaille comportent un aspect humain important.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Ouais.
Donc automatiquement, cette espèce d'échange, avoir une place là suppose déjà un certain type de sociabilité, un certain type de mœurs.
Ouais.
Et on le voit bien dans ces chroniques, le non-formatage de ces chroniques, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Oui, bah, les chroniques, c'est vraiment merveilleux, ça fait partie des grandes publications posthumes.
Il n'est jamais... Et il est visiblement pas relu, si on publie ce qu'il écrit, c'est pas rien, hein. C'est quand même quelque chose, il faut voir...
Oui, il y a une grande liberté.
Il y a une grande liberté, cette liberté lui est accordée, il l'accorde aux autres en travaillant avec eux, etc. Enfin, il y a vraiment y a quelque chose qui se passe là,
qui
est beaucoup plus fort que ce qui se passe à la Série Noire, par exemple, pour sa génération. Celle de Duhamel, c'est autre chose, mais là, pour sa génération, ils sont déjà...
C'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Qu'il y a un format, qu'il y a quelque chose... Ils sont très brimés, quoi, en fait.
À la Série Noire, alors...
On leur fait réécrire des trucs, en fait. Oui. Il y a un vrai travail d'édition.
Ça aussi, dans l'idée de contre, j'ai une partie de mon livre sur son rapport à la Série Noire, qui est très important. Alors, il est attaché à la collection... Il a fait les 80 ans de la Série Noire, qui est une collection donc, qui a survécu à Manchette. Il a fait beaucoup pour la collection, mais la collection a fait beaucoup pour lui. L'affaire Ngoustro, normalement, c'est un roman qui a été proposé à Albin Michel.
C'est l'affaire Ben Barka.
Voilà, c'est ça. C'est un roman qui s'inspire de l'affaire Ben Barka, où Manchette s'invente une espèce d'alter ego complètement dissonant. Qui lui ressemble par certains aspects et par d'autres pas du tout, puisque c'est une espèce d'idiot fasciste d'extrême droite, mais il lui met des souvenirs qui sont les siens, enfin bon. Et ça lui permet d'évoquer l'affaire Ben Barka, et c'est un roman qu'il a proposé à Albin Michel sous sa première forme, qui a été refusé, et c'est Dominique Horry qui lui conseille de présenter le livre à la Série Noire. Et là, on voit bien son rapport riche et complexe à la Série Noire, c'est que le livre est d'abord... pose problème aux lecteurs de la Série Noire qui comprennent bien que là, ils sont quand même face à quelque chose de très atypique, qui n'est pas dans les normes de ce que lisent habituellement les lecteurs de la Série Noire. Donc, ça remonte jusqu'à Duhamel, qui va écrire une belle note de lecture dans laquelle il dit que oui, effectivement... Il y a des choses qui pourraient faire sursauter les lecteurs de la Série Noire, mais il dit l'auteur a du talent et de l'humour, et donc il dit il faut tenter l'aventure, à condition que ce jeune romancier fasse quelques corrections. Donc Manchette va faire ces quelques corrections. Donc le roman qui a été publié, c'est l'affaire Ngoustro, mais corrigé. Je crois que la première forme a disparu, donc je ne sais pas à quoi ça ressemblait avant. Et à partir de ce moment-là, quand on lit un petit peu les écrits de Manchette, on réalise que, tout en étant attaché à la Série Noire, il a l'impression de travailler contre la Série Noire, parce qu'effectivement, il voit bien que c'est bien raconté, par exemple, dans de petits extraits de son journal qui sont publiés dans le Quarto. Parfois, ce qui pose problème à la Série Noire, c'est, je sais pas, par exemple pour Le Petit Bleu de la Côte Ouest, des choses auxquelles lui il tient profondément, ce qui est lié à son écriture, toute une série de références précises à, je sais pas moi, à des objets, à des œuvres culturelles, ou alors ce qu'il appelle des passages un peu rhétoriques. C'est ça qui fait sursauter la Série Noire. Alors pour lui, c'est très important. Donc voilà, il dit qu'il faut aussi travailler contre eux. Alors, il a une position qui fait que, je crois que c'est pour Le Petit Bleu de la Côte Ouest, qui dit que de toute façon, la collection prendra le roman même sans correction. Maintenant, il peut préserver l'intégrité de son texte. Mais voilà, il y a ce rapport complexe, riche aussi, je crois, à la collection, qui fait qu'il est vraiment dans la Série Noire. Il n'a pas l'impression... Enfin, je pense qu'il y est...
C'est important pour
lui.
Il
y est bien. Voilà, c'est vraiment important pour lui. Il n'a jamais cherché à en sortir. Vous voyez, il y a beaucoup d'autres auteurs qui, dès qu'ils ont vu le train de la Blanche passer, qui sont montés dedans pour quitter la Série Noire. Lui, pas du tout. Au contraire, même quand on l'interview à un moment donné dans une émission, je ne sais plus, peut-être pour France Culture, on lui demande quels sont ses projets, et puis il dit qu'il a pour projet d'aller peut-être écrire dans des formes encore plus culturellement déclassées que le polar. Il dit peut-être du porno. Et il dit voilà, mais il dit bon, ça finira aussi par être récupéré. Il y aura bien des zigotos qui feront du néo-porno.
Et donc là, si on passe au deuxième aspect, contre l'émotion,
oui.
Ce que vous venez de dire, il prend un héros fasciste et il lui donne ses propres souvenirs. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est l'aspect auto-analyse, dans le sens où ça implique ses parents ? Est-ce qu'on peut parler de ses parents maintenant ? Et que cet aspect fasciste, c'est en fait l'héritage d'une génération qui est née pendant la guerre et qui a ce rapport avec selon les parents qu'on a. Les parents, et donc là, il implique sa présence globale dans la société, il y a aussi sa mère, son père, le discours qu'il y avait autour de lui, l'univers dans lequel il a grandi. Est-ce qu'on peut dire ça ?
Qu'il les projetterait ça dans le personnage de Butron, par exemple ?
Oui,
dans
c'est-à-dire que c'est pas comme ça, on n'est pas de façon spontanée, on est avec un héritage, avec des choses qu'on a apprises, c'est tout, c'est beaucoup plus complexe, donc on peut avoir des réflexes négatifs par moment, ou des choses qui reviennent, donc on n'arrive pas à vaincre, des choses qu'on n'arrive pas à dépasser, des conflits qu'on n'a pas eus, ça reste comme ça, on décide pas de juste décrire ce qui se passe dans une histoire qu'on invente, on existe, on a un inconscient qui travaille, enfin c'est ce que j'ai ressenti dans ce contre l'émotion. Je pense que c'est ça, moi, le fil conducteur, c'est pour ça qu'il y a une envie de biographie.
J'ai pas écrit une biographie, là il y a des choses biographiques effectivement, puis ce que j'ai réalisé.
C'est quoi ce contre l'émotion, ça veut
Alors
dire
voilà,
quoi
contre l'émotion, ça, c'est lié vraiment c'est plus lié dans mon esprit, moi, à la question du behaviorisme. C'est-à-dire que, en fait, ça vient vraiment très, très bêtement de ma découverte de Manchette, qui est qu'un jour, il y a à peu près 20 ans, j'achète par hasard le folio d'un roman qui s'appelle La position de tireur couché, d'un certain Jean-Patrick Manchette. Que je ne connais pas plus que ça, j'ai aucune, j'ai pas de culture polareuse, donc je commence à lire des polars, mais pas beaucoup. Ça m'intéresse, mais je veux dire, j'ai aucune idée de ce que c'est que le néo-polar, donc j'ai une lecture vraiment naïve, en fait, de ce roman. Et je suis vraiment très troublé par ce que je lis, par le début de ce roman-là, avec ce vent là qui se lève par le roman lui-même, et je me souviens que je lis la fin en étant vraiment bouche bée, et donc en étant très ébranlé, en fait. Donc moi je ressens en même temps je vois très bien qu'il y a même un hyper behaviorisme dans la position de tireur couché, parce que vraiment Manchette fait attention à ce qu'il n'y ait aucune incursion dans l'intériorité du personnage, et pourtant le texte me semble saturé d'émotions. C'est vraiment l'émotion au sens étymologique, quoi, de Mowere, de mettre en mouvement. Donc moi, je suis très ébranlé, en fait, par la fin de La position couchée, que je lis avec des frissons. Donc, quand j'ai fait, bien plus tard, hein, j'ai commencé un travail de recherche à l'université avec un mémoire, un mémoire de master sur Manchette, et j'ai cherché un sujet, et je me suis dit, finalement, je vais remonter à la source de ma lecture de Manchette, qui est qu'en fait, moi, je trouve que ce sont des livres pleins d'émotions. Pas du tout l'émotion en sens traditionnel, c'est pas un lyrisme traditionnel. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose dans le texte. Je suis ébranlé, il y a toute une série de chocs. Manchette théorise beaucoup ça, l'effet de choc chez le lecteur. Donc je me suis dit, bon, alors comment ça fonctionne l'émotion, par quel chemin elle passe, quel est son rôle, quel est son nouveau visage. Donc j'ai travaillé là-dessus, en fait, moi, sur le rapport au behaviorisme, comment Manchette arrive effectivement à avoir une écriture qui paraît behavioriste, tout en essayant de transmettre cette émotion qui le nourrit d'ailleurs lui-même quand il écrit. Donc c'est ça, en fait, plutôt contre l'émotion. C'est pour ça, par exemple, que donc, je m'intéresse au corps des personnages, qui peuvent être, je sais pas, là, par exemple, à leur teint, à leurs lèvres, à leur rapport aussi. Il peut y avoir des choses sur, effectivement, là, sur la psychanalyse, sur le côté psychosomatique de certains personnages, comme le tueur Thompson, dont le corps parle, en fait, à sa place. Donc il y a tout ça. Mais, par exemple, il y a des paysages qui sont somptueux dans l'œuvre de Manchette, qui peuvent en dire beaucoup aussi sur les personnages qui sont silencieux, mais tout autour d'eux, le paysage peut se colorer, comme la peau des personnages quand ils sont émus. Et puis aussi, comment la voix narrative, elle est, comment le narrateur est à la fois à distance et puis des fois étrangement présent. Il y a des petites choses qui le signalent. Par exemple, ça ne vous a pas échappé, si vous connaissez bien l'œuvre de Manchette, il y a des choses troublantes qui avaient d'ailleurs été analysées avant moi. Hein. Je suis vraiment loin d'être le premier à travailler sur Manchette. Il y a eu des gens qui ont écrit sur Manchette bien avant moi, à qui je rends hommage aussi. Et donc, par exemple, ça avait été repéré qu'il y a des jeux troublants dans dans les romans de Manchette. Le narrateur est complètement à distance et en même temps, parfois, il apparaît, on sait, enfin, il se signale à nous. Par exemple, le roman Fatal, qui est un roman que j'aime beaucoup. Fatal, c'est en apparence un roman qui a l'air d'être vraiment dans les canons du genre behavioriste. Et en même temps, à la fin, il y a deux pages qui sont complètement dingues, qui sont l'héroïne a un accident de voiture, et puis il y a une sorte de délire au sens, là aussi presque étymologique, on sort du chemin tracé, on ne sait pas, elle a l'air de mourir, elle saigne, et en même temps, elle vit une espèce d'ascension magnifique, le texte se transforme quasiment en poème en prose, le narrateur apparaît avec une marque de la première personne, et puis ça se termine sur cette phrase « Femme voluptueuse et philosophe, c'est à vous que je m'adresse » en majuscule. Et donc j'ai appris plus tard que c'était donc une phrase de Sade, hein, que Manchette place là. Donc moi, quand je lis ça, si vous voulez, je n'ai pas du tout l'impression d'être face à un texte froid, face à une écriture sèche, clinique. Au contraire, j'ai l'impression d'être face à un texte qui cherche à marquer son lecteur.
Il y a aussi quelque chose dans votre livre qui est absolument passionnant, c'est cette hypothèse qui change de style à chaque livre. Et donc, ce que vous traquez, c'est les invariants.
Oui.
Donc là, il y aurait vraiment... Il y a matière
alors,
à penser.
Deux, voilà.
Il change de style à chaque livre. C'est ça, l'idée de la bio. Qu'est-ce qui varie pas? Qu'est-ce qui apparaît à travers cette...
Mais moi, ce qui m'intéresse,
c'est... Quel est le fond de la forme?
Ouais, c'est de voir, effectivement, il y a deux choses. Il y a effectivement une évolution certaine, et puis il a l'envie de se renouveler, donc il y a une grande variété dans ses romans. Et en même temps, il y a des lignes de force, il y a des choses qui unissent. J'ai même découvert des échos, c'est-à-dire des petits bouts de phrases qui sont dans La Princesse du Sang, donc à la toute fin de sa vie, et qu'on trouve déjà dans Les Têtes Brûlées. Il y a des échos qui sont vraiment étonnants. Oui, en même temps, j'ai pas voulu figer son œuvre dans un système, en fait, parce que je pense qu'il y a du jeu, il y a des choses qui évoluent.
Il pense beaucoup.
Alors, c'est aussi une autre particularité de Manchette, c'est que...
C'est quelqu'un qui se ronge en même temps, beaucoup.
C'est-à-dire qu'il a conscience de ses effets. Donc, en fait, il se commente lui-même à travers ses critiques, avec beaucoup de dérision aussi, et d'autodérision. Ça, quand même, il faut dire, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Manchette, c'est très drôle, c'est-à-dire qu'on rit beaucoup. C'est évident, ce sont des romans noirs, c'est sombre, et en même temps, c'est parfois très drôle. Même les personnages eux-mêmes à l'intérieur des romans...
Il y a
romans,
d'ironie,
voilà.
On pourrait dire. Hein. L'ironie, alors, c'est rire de soi, quand même, plutôt
oui,
que des autres.
Oui, peut-être, et en même temps, il y a aussi des moments grotesques. Il y a des personnages qui ont des fous rires dans les romans, qui ne peuvent pas s'arrêter de rire, même dans des moments de grande tension, par exemple... dans Au Dingo au Château, alors pour ceux qui ne l'ont pas lu... lisez-le parce que c'est formidable. Ça raconte l'histoire de Julie, une femme qui fuit avec un enfant qui s'appelle Peter, et bon, il fuit des tueurs. Et a priori, donc elle sort en plus, pour aller vite, on va dire, d'une sorte d'hôpital psychiatrique. Et donc elle a l'air un petit peu, enfin, c'est la victime idéale, si vous voulez, d'autant qu'elle fuit avec un enfant et qu'elle est quand même poursuivie par des tueurs qui ont l'air d'être plus dangereux qu'elle, a priori. Il y a une scène complètement dingue dans Un prise unique. Donc dans un supermarché où tout va se renverser, ou alors qu'elle est traquée, c'est elle qui va mettre le feu au supermarché et au tueur, donc réduire aussi quasiment en cendres un symbole de la société de consommation, c'est pas anodin. Et l'un des tueurs qui la poursuivent, c'est Thompson, et même lui, à un moment donné, alors que ça se met à dérailler et que bon, il n'est pas dans une position confortable, il se met à rire. Vous voyez, il a une espèce de crise de fou rire. Je crois que le narrateur dit Thompson riait comme un bossu. Donc il y a ce rire-là aussi qui travaille l'œuvre de Manchette. C'est-à-dire que c'est à la fois parfaitement sérieux. Il dit j'essaie d'écrire des romans en essayant d'être agressif et critique. Donc il y a une vraie intention. C'est pas la blague pour la blague. Et en même temps, c'est très drôle. Donc, et cette dérision, elle s'exerce aussi vis-à-vis de lui. Donc ça, c'est important. Il se commente dans ses critiques. Et en même temps, même dans les romans, il se commente lui-même à l'intérieur des romans.
Merci. C'est l'heure de la pause musicale. Donc, nous sommes sur Aligre FM 93.1. Dans la vie est un roman. Nous allons écouter un petit morceau de musique. nous sommes toujours dans La vie est un roman sur 93.1 Aligre FM et je suis en train de parler avec Nicolas Leflaec de son formidable livre de 728 pages sur Patrick Manchette, Écrire contre. Je profite de la reprise de parole pour remercier ses frères et famille Damien Guissa et Lucas Panther qui sont de l'autre côté de la vitre. Merci. Et donc, oui, on est un peu superficiel, mais bon, les gens vont acheter votre livre, j'espère. On a fait contre le roman noir, contre l'émotion, et alors maintenant, on est à contre le soi.
Voilà, donc c'est contre soi, c'est une partie qui est consacrée au personnage, au héros manchétien, qui est un héros travaillé par toute une série de tensions, à l'image du texte qu'il fait vivre. C'est d'ailleurs un héros qui est vraiment dissonant par rapport à la société. Donc moi, j'ai travaillé aussi beaucoup cette question de... Ce j'emploie ce mot-là, dissonant.
Il est très important.
Voilà, pour moi, il est très important. C'était le titre de l'écriture de ma thèse. C'était Jean-Patrick Manchette, une écriture de la dissonance. Donc ça pourrait nous ramener d'ailleurs au jazz. Mais c'est l'idée qu'en fait, Manchette va... trouver une manière de raconter les dissonances de son époque, ce qui va pas, ce qui trouble l'harmonie, le travail du négatif, et qui va trouver une écriture au diapason de ces dissonances-là. Donc son écriture est elle-même dissonante, elle est travaillée par toute une série de tensions. Et les personnages sont exactement au diapason de cette écriture. Par exemple, dans leur rapport à la société, ce sont des personnages qui sont finalement... plutôt dans les marches de la société. J'ai essayé de regarder un petit peu tout ce qui, par exemple, chez des sociologues, caractérise le lien social. Par exemple, le lien social, ce qui relie l'individu à la société, c'est, pour aller vite, ça peut être les parents, ça peut être les amis et le couple, ça peut être le travail et ça peut être le rapport à la nation. Bon, tout ça, les personnages de Manchette, à quelques exceptions près, le refuse. Donc il y a, ça va vous plaire pour la dimension biographique, il y a du point de vue du rapport au père et à la mère, il y a beaucoup de choses dans les romans de Manchette, c'est-à-dire que souvent quand il y a un père ou une mère qui traîne, il finit par mourir ou il y a par exemple des têtes qui explosent, enfin il y a un rapport au père et à la mère qui est assez compliqué, que Manchette a... Enfin, dont Manchette avait parfaitement conscience, parce que quand on lit son journal, on voit... Donc là, il y a une petite dimension biographique, effectivement, dans mon livre, parce que j'essaye de...
Ah oui, il s'auto-analyse beaucoup dans son journal.
Alors, dans le journal,
c'est
oui.
C'est un document formidable.
Ah oui, le journal est vraiment formidable.
On avait
formidable.
Oublié dans la liste de ses écrits publiés, eh
bien,
c'est génial.
Bien sûr, oui. Tout, y a entre sa disparition en 1995 et la publication du journal, je crois, peut-être en 2008, de mémoire, il y a effectivement toute une série de publications posthumes qui sont vraiment formidables et essentielles, et le journal en fait partie. Le journal qui juste comprend, par contre, les premières années d'écriture de ce journal-là, jusqu'en 1974, je crois. Donc on a une partie grâce à ce journal-là, et il évoque ses parents dans la correspondance. Donc il y a une autre... Il y a une autre partie dans les écrits posthumes. Depuis 2020, il y a eu la correspondance, il y a eu les entretiens, il y a eu aussi les chroniques de jeu qui sont vraiment très très bien. Et quand on met tout ça bout à bout, notamment la correspondance dans laquelle il y a une lettre qu'il écrit à sa mère, qui est la lettre à la mère, un peu l'équivalent de la lettre au père de Kafka, mais version Manchette et version mère. Bon, on comprend que les rapports avec ses parents sont très, très complexes. Et évidemment, il y a une petite partie de ça qu'on retrouve dans les romans. Alors, il ne s'agit vraiment pas de dire que... il ne s'agit pas de faire du biographique. Enfin, vous voyez, de dire que Manchette plaquerait sa vie, ce serait complètement idiot et ça ne tiendrait pas. Par contre, bon, on peut dire que les romans noirs sont teintés quand même un peu d'un rapport à la mère et au père complexe. Donc... pour tout ce qui est lien de filiation, c'est très important dans l'œuvre de Manchette, c'est une question très complexe pour lui. Le rapport au couple, à la sexualité, c'est aussi très singulier dans l'œuvre de Manchette. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment étonnant de ce point de vue-là. Donc j'étudie aussi ça, quels sont les couples qu'on voit dans l'œuvre de Manchette. La question du travail, parce que on est dans les années 70 pour les romans publiés à la série noire ou tout début des années 80, et donc on se situe quand même juste avant ou pendant vraiment le triomphe du capitalisme dans les années 80 et la valeur travail. Vous voyez, la valeur travail, on bassine toujours les oreilles. Donc ça, Manchette, le vomi, ce travail-là, c'est-à-dire pas le fait de... Il n'y a pas, par exemple, d'oisiveté chez ces personnages, et encore moins chez Manchette lui-même, qui a, vous avez raison de le dire, vraiment beaucoup, beaucoup travaillé...
Il y a toutes ces traductions qu'il fait, enfin, moi, je trouve extrêmement laborieux.
Ah oui, oui, quand on regarde... En fait, quand on regarde la somme de ce qu'il a écrit dans sa vie, c'est ahurissant, en fait.
Et les rapports avec sa femme passent par le travail, à cause des traductions.
Alors, donc, notamment, voilà, oui, pas que sans doute, mais oui, ils ont
c'est
traduit ensemble.
C'est pas tous les couples qui sont comme ça.
Non, ils ont traduit ensemble. C'est un traducteur important, Manchette. On peut le rappeler ici. On lui doit, si vous avez jamais lu Kahawa de Donald Westlake, lisez-le. C'est vraiment un roman formidable. Les romans de Ross Thomas aussi, il y en a certains qu'il a traduits. On lui doit quand même la première traduction de Watchmen en France, dont il a commencé cette traduction-là. Donc, il a vraiment beaucoup travaillé. Par contre, ces personnages refusent la soumission au travail dans la société, l'argent aussi. Il y a, je fais toute une petite sous-partie là-dessus, sur la question de l'argent sale, en fait. Il y a même, par exemple, il y a même des tueurs ou des tueuses comme Aimé Joubert dans Fatal qui, finalement, oublient carrément l'argent du contrat, s'en soucient peu à la fin. Donc, il y a un rapport au travail qui est là aussi de son époque. Parce que donc, j'évoquais tout à l'heure la question de Guy Debord, par exemple, et du rapport au travail. Vous voyez, pour vous donner un exemple de choses étonnantes... qui montre que même les travaux alimentaires du début sont intéressants. Manchette, sous le pseudonyme de Pierre Duchesne, a novélisé, c'est-à-dire qu'il a transformé en roman un film, Mourir d'aimer, avec une intrigue qui se passe d'ailleurs durant mai 68 à peu près, au moins en partie. Et on voit à un moment donné, en lettres énormes, sur un mur, « Ne travaillez jamais », donc c'est dans le roman. Donc ça c'est le rapport dissonant du personnage au monde, et puis après il y a le rapport à la nation, c'est-à-dire que bon voilà dès son premier roman l'affaire Angoustreau,
il grandit pendant la guerre d'Algérie, hein.
Alors voilà, il y a aussi ça, ça aussi ça m'a, donc c'est plutôt dans la quatrième partie, mais c'est que si on lit bien Manchette, si on lit tout Manchette, on a en fait une petite histoire du XXe siècle qui s'écrit depuis la révolution russe jusqu'à la guerre froide, en passant par la guerre d'Espagne, la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, mai 68. La guerre d'Algérie, elle est vraiment essentielle dans son œuvre depuis l'affaire Angoustreau jusqu'à la fin. C'est vraiment important.
Ouais, on pourrait dire donc alors là, il y a une spécificité que j'ai découvert en lisant votre livre. Il cite Hegel, il cite Marx, il cite Debord, mais il est aussi fan de la planche et Pontalis, le vocabulaire de la psychanalyse.
Alors, il le cite en tout cas, fan, je ne sais pas.
Il l'utilise.
Voilà, il l'utilise, bien
et
sûr.
Et ça, c'est très, très mal vu dans les milieux prostitués. C'est totalement interdit, les rapports à tout ce qui est psychologique.
Oui, bah alors, bah, en tout cas, il l'utilise comme un document de travail, peut-être, à un moment donné.
Il y voit quand même quelque chose de critique, en fait. Il voit, c'est le côté reichien. Il voit une dimension critique.
Alors il y a aussi voilà, il y a aussi pas mal de références à Reich effectivement dans son œuvre jusque dans les romans noirs. Donc
et puis des phrases d'Hegel telles quelles. Hein, dans
alors oui voilà, il y a beaucoup de collages, c'est-à-dire qu'il pratique le collage un peu comme les situs mais ou comme Debord, mais
Le détournement.
Voilà, le détournement de citations. Sauf que lui le fait souvent avec des citations qui forme une espèce d'environnement ami pour lui, c'est-à-dire des citations. Il prend pas ses citations au hasard. Souvent, ce sont des choses qui l'intéressent. Donc ça a été un des plaisirs aussi, et ce qui fait que j'ai mis un petit peu de temps, c'est qu'il y a un côté jeu de piste qui m'a un peu amusé, parce que donc ce sont des détournements de citations, donc elles sont présentes dans l'œuvre, mais il y a parfois pas de guillemets, donc il y a évidemment pas la source, puisque le principe c'est de décentrer un petit peu la citation pour qu'elle trouve un nouveau un nouvel environnement et un nouveau sens. Donc il y a beaucoup de références. Il y a des citations de Hegel depuis le roman pornographique là, écrit sous pseudonyme Zeus de Castro, ou des scénarios de jeunesse, mais aussi dans, je sais pas, dans Fatal, où il y a une citation qui est cachée dans l'œuvre. Il y a des références à Flaubert, au Goncourt, à Marx, évidemment, à Sade, à Dada. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait qui nourrissent cette œuvre.
Ah oui, il aimait bien la poésie de Sarah. Ça, c'est, il offre à sa oui, compagne.
Effectivement, ouais. Il dit quelle belle chose les manifestes dadaïstes aussi, ça l'intéresse. Donc. Mais ce qu'il faut dire quand même au lecteur, c'est que c'est pas snob en fait. C'est-à-dire que si on repère pas les citations, on s'en fiche complètement. Moi, ma première lecture, en fait, ce niveau-là de l'œuvre.
C'était courant. C'est, à l'époque, c'était
oui,
courant.
Oui, en plus,
quand même.
Voilà.
Tout ça, c'était la culture collective. Il y avait
oui.
ça, puis le structuralisme de l'autre côté.
Alors, il y avait ça, effectivement, mais c'est-à-dire que la force de Manchette, vraiment, je pense, c'est que. Et ce qui fait qu'on le lit toujours, c'est qu'il y a des niveaux de lecture qui cohabitent ensemble.
Absolument.
Et plein de raisons de lire un seul roman. Moi, je le vois par exemple avec... donc, j'enseignais en lycée avant et maintenant à l'université, à Bordeaux. Et je crois qu'il n'y a pas une seule année où je n'ai pas parlé de Manchette avec les étudiants et où je ne l'ai pas fait lire, et même aux lycéens. Et ce que j'ai constaté souvent, c'est que un seul roman peut plaire, par exemple, à des étudiants ou des étudiantes pour des raisons très différentes. Il y en a qui vont aimer parce que c'est drôle. Il y en a qui vont aimer, par exemple, Nada, parce qu'il y a une dimension politique qui va leur parler dans le rapport au militantisme, jusqu'où on peut aller dans le militantisme, dans le rapport à la violence pour défendre ses idées. Il y en a d'autres qui vont être séduits ou séduites par les personnages féminins. Par exemple, ça, je l'ai constaté, il y a de très beaux personnages féminins chez Manchette, Aimé Joubert dans Fatal, par exemple. Il y en a qui vont être saisis aussi, ça je l'ai constaté, parce qu'en fait les romans aussi, tout en montrant qu'on est assiégé par le marché, qu'on est écrasé par le rapport à la consommation, les romans nous montrent parfois, c'est vraiment très bref, comme des éclairs, que quelque chose d'autre est possible.
Ça, c'est Contre le monde.
Alors ça, on irait un peu dans Contre le monde,
il faut
si vous voulez. Voilà,
voilà. C'est le dernier aspect.
Oui, bien sûr, il faut rester organisé. Moi, j'ai l'idée, puis c'est ce que Manchette rappelle, que lui, et ses personnages sont des vaincus et ils racontent leur défaite parce qu'ils se dressent contre le monde et qu'ils sont forcément écrasés.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Mais, pour autant, Manchette n'écrit pas des romans nihilistes. C'est-à-dire qu'il y a toujours chez lui l'idée que, même s'il proclame la mort de l'art, la mort du roman bien volontiers, il pense toujours que ça reste utile de lire et d'écrire, malgré tout. Bon, donc, il n'y a pas une dimension nihiliste dans son approche à l'écriture. Donc, je suis parti l'idée dans cette dernière partie que... Manchette avait des choses à nous dire sur le monde qui l'entourait et sur le monde qui nous entoure aussi. Donc j'ai essayé de voir un petit peu comment son œuvre se positionne dans ce rapport au monde-là. Et en essayant de voir, par exemple, comment son approche réaliste pouvait rejoindre celle, par exemple, d'un écrivain comme le Pérec des choses, dans le rapport à la société de consommation. Et dans ces moments-là, il y a ce qu'il appelle un réalisme désespérant. Voilà, Manchette écrit pour ça. Il dit « Naguère, un crétin craignait de désespérer Billancourt, il faut désespérer tout le monde. » Donc lui, il est dans cette optique-là. Il faut montrer que le monde qui nous entoure est intolérable. Il ne faut surtout pas atténuer la colère. Il faut lui donner un espace pour exister. Mais je crois que chez Manchette, il y a l'idée que tout ça doit quand même nourrir le travail de l'esprit.
Alors c'est une des choses aussi qui m'est apparue en lisant votre livre. Je le savais, mais là c'est vraiment ça permet de le d'en prendre vraiment conscience. Il y a quelque chose chez Manchette qui explique peut-être le plaisir de vos étudiants à le lire. C'est le plaisir qu'il a à écrire. Et c'est en contradiction justement avec l'idée qui se fait de Debord ou qui se fait de Lebovici, etc. C'est une contradiction totalement fausse et superficielle, mais c'est ce qui sauve le tout, et c'est vrai aussi des autres auteurs de romans policiers qu'il va reconnaître, hein. Et c'est vrai, par exemple, qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un... Il n'y a pas cette écriture mercenaire, et que ça fait déjà une différence dans la perception des romans policiers, la chose en soi, ou une chose qui est faite pour une autre raison que le fait d'écrire. Et chez Manchette, dans toutes ses activités, que ça, depuis son journal intime, ses chroniques, n'importe quoi, il y a toujours ce rapport à l'écriture, à le côté Flaubert de la vie qui est très fort.
Et en même temps,
ça explique la réception aussi.
Oui, et une écriture qui n'est jamais gratuite, en fait.
C'est-à-dire la sauvegarde, le posthume.
Voilà, il dit que la forme n'est pas la forme si elle n'est pas la forme du contenu. Donc ça, c'est très important pour lui. Et il y a vraiment, malgré la noirceur de l'œuvre, il y a une joie très profonde qui traverse le texte, voilà. Dans la forme et dans le fond aussi, oui. Et tout ça étant lié, il le dit à un moment donné, oui, le style source de joie, n'est-ce pas ?
Il le dit vraiment.
Oui, le style source de joie, ouais. Et c'est une joie aussi presque, alors bon, lui plutôt Hegel, mais presque au sens spinoziste aussi, parce que c'est une joie qui augmente notre puissance d'agir.
Ouais, Hegel aimait beaucoup Spinoza, donc
oui,
ça
aussi,
fonctionne.
Oui, aussi, bien sûr, oui, mais on les a opposés un peu après, jusque dans le roman noir, avec le roman de Jean-Bernard Pouy, donc... mais c'est une joie très profonde, en fait. C'est une joie qui nourrit l'esprit, c'est une joie qui sert d'antidote contre la bêtise. Là, il rejoint Flaubert aussi, c'est que moi, quand je lis Manchette, je me sens mieux par rapport à ce que je peux lire, voir, écouter, entendre la plupart du temps. J'ai l'impression d'y trouver une sorte d'antidote à la bêtise. Donc c'est vraiment une joie qui laisse pas le lecteur béat, mais qui lui permet de se construire aussi intellectuellement, le tout avec le plaisir du texte, parce que ce sont quand même des romans magnifiquement écrits. Il faut dire qu'au niveau de l'écriture, on en a aussi pour son argent.
Mais si on prend le Poulpe depuis, là, toute la collection, on voit la différence d'investissement.
Bon, après, les Poulpes, il y en a eu tellement que c'est le principe de la collection, c'est la variété.
Ouais, et puis c'est comme des bouts, quoi. Il y a un petit bout d'Aninx sur la guerre d'Algérie, après on va avoir un bout sur l'ironie, et puis donc ça va être, quand on écrit un livre, Parkinson-Leglas, par exemple, ou « J'irai faire Kafka sur vos tombes », on est dans une autre dimension,
oui,
un peu plus rapide.
C'est différent, et en même temps, on voit bien que Manchette a marqué aussi, toute une série d'écrivains. Au début de mon livre, je fais une petite liste d'écrivains du polar ou hors du polar qui ont dit que Manchette avait compté pour eux. Ça fait beaucoup de monde et ça fait une drôle de famille.
Mais il aimait Signac, c'est Signac.
Alors oui, alors voilà, il avait. Alors
ça, un ça, type c'est qui avant. Était un vrai caractériel tout seul, qui est très inventif sur la forme.
Oui,
aussi,
oui, ça c'est. Ben,
c'est un chat qui raconte l'histoire.
Il avait une vraie admiration pour Signac, effectivement. Et puis il y a des très belles lettres dans la correspondance. On voit bien que. On mesure aussi l'humilité de Manchette. C'est-à-dire que.
Il s'est reconnu les autres.
Pour lui. Et il est sincère quand il écrit ça, je pense. Lui, Manchette, c'est il a un peu de succès dans les années 70, mais on l'oubliera très vite. Je commence mon livre comme ça, d'ailleurs. Alors que pour lui, Signac, c'est un vrai écrivain.
C'est Queneau, c'est le nouveau Raymond Queneau.
Et bon, les choses, Signac, c'est toujours un écrivain qui est lu.
Mais il a disparu.
Mais il est moins, il n'a pas l'aura de Manchette, parce qu'en plus, Manchette continue à être adapté en bande dessinée, continue à être adapté au cinéma. Il est traduit dans plein de pays, jusqu'aux États-Unis. Il est lu par des générations de lecteurs très différents, c'est-à-dire que moi, j'avais... Donc, il y a toujours des lecteurs qui lisaient du vivant de Manchette qui continuent à le lire. Moi, j'avais même pas 10 ans quand il est mort, donc je connaissais évidemment... Enfin, le nom de Manchette m'évoquait rien. Moi, je connaissais plus Sangoku et Dragon Ball à 10 ans. Donc, ça m'évoquait rien et je l'ai découvert après. Et là, maintenant, je travaille avec des étudiants qui n'étaient même pas nés, en fait, quand il est mort. Donc, il y a quelque chose de son œuvre, en fait, qui traverse les époques. Parce que c'est en ce sens que c'est un classique parce que c'est notre contemporain. Il dit des choses du monde qui nous entoure. Vous voyez, par exemple, quand les entretiens sortent en 2023, mars 2023, les entretiens sortent le même jour que je crois, le 49.3 sur la loi concernant les retraites. Bon. Et quand on lit les entretiens, par exemple, il y a des choses très intéressantes sur le rapport au travail qui éclaire toujours notre société. Par exemple, dans un entretien, il écrit « En France, la situation bordélique est retardée par l'élection d'une brochette de crétins partisans du travail à outrance. » Bon, ça résonne toujours avec notre époque, je crois, pour le rapport à la valeur travail, pour l'écologie aussi.
Alors, j'ai reçu un auteur qui a écrit un très bon livre dans un style à la Beckett sur la guerre d'Algérie. On a lu pendant une demi-heure son livre et ça a passé très bien. Donc c'est pour dire, je pensais là tout à l'heure sur le Chandler, Mike Davis, sociologue américain qui est mort il n'y a pas longtemps, il traite Chandler de raciste, profondément raciste. Alors on a des choses comme ça pour Manchette, on n'a pas de... Ça reste d'actualité, son point de vue critique sur le monde. Chez Chandler, il n'y a pas du tout ça. Chandler se définit comme étant un mercenaire de l'écriture qui cherche une place et il s'inspire de Somerset Maugham, ou non, je sais pas ça, mais d'un auteur anglais dont il recopie, il est anglais d'ailleurs, à Chandler d'origine, il réécrit Miss Blandish, il réécrit un bouquin, etc. Donc, mais il est de son époque. Il reste juste parce que la fortune critique de quelqu'un, c'est de son actualité, en fait.
Ouais, ouais, ça. Ouais. Moi, j'aime bien toujours les romans de Chandler. Puis vous avez,
moi aussi, j'adore les romans de Chandler.
Ils ont été retraduits par la série.
Mais j'aime beaucoup Mike Davis et je pense que c'est vrai ce qu'il dit. J'imagine que, par exemple, ce qu'il dit des Asiatiques, ça doit être vrai, que ça doit être raciste. Bourré de clichés, quoi, au minimum.
Oui, oui, bah alors, par exemple...
J'ai pas vérifié, mais je suis sûr que Mike Davis dit la vérité.
Bon, c'est vrai que Manchette, pour plein de raisons, vieillit bien. Il n'a pas, par exemple, dans le rapport à l'homosexualité, il y a des choses dans la série noire qui sont quand même maintenant assez affreuses avant lui. Et de ce point de vue-là, dans son œuvre, il y a quelque chose qui vieillit.
Et en plus,
très bien.
Je travaillais dans un journal fémino-gauchiste qui s'appelait Enfant d'abord. Et la question centrale, c'était l'avortement. Et on voit dans l'histoire que ce n'est pas linéaire. Ce genre de truc, donc ça peut, parce que l'homophobie est en ce moment très Trump, etc. Mmh. Donc ça revient en masse, quoi. Donc on a, c'est pas derrière nous.
Oui, oui, bah oui. Et voilà, donc il y a plein de raisons de continuer à lire encore Manchette. Je disais par exemple l'écologie, c'est assez étonnant de voir comment à la fin de sa... Bon, de sa courte vie, malheureusement.
Ah oui, il meurt à 54 ans.
Ah oui, même pas.
52
Ouais, c'est ça, il n'a pas encore 53 ans quand il meurt. Donc, c'est intéressant de voir comment il s'intéresse à l'écologie à la fin de son existence aussi, jusque dans sa toute dernière chronique.
Et donc, c'est la fin de l'émission. Merci. Je remercie Séphraïm, famille, Damien Guissa et Lucas Panture, qui était de l'autre côté de la vitre. Et à la semaine prochaine, c'était La vie est un roman sur Allegre FM 93.1.
Merci.
Au revoir.
Écoutez Allegre FM 93.1.